19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir, les amis auditeurs. Vous savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver comme chaque soir. Chaque soir, c'est les informés. Oui, les informés qui vous accompagnent pendant une heure jusqu'à 20h. Nous sommes ensemble. Ensemble, vous connaissez la mécanique maintenant. L'invité qui parle de son actualité. Ensuite, j'ouvrirai l'antenne. Aujourd'hui, on reçoit une personnalité que vous appréciez énormément. C'est Edoui Plenel. À gauche de l'impossible, c'est son ouvrage. C'est notre invité. Ensuite, j'ouvrirai l'antenne tout à l'heure pour parler du débat, le face-à-face qui a fait un carton d'audience. Plus de 3,8 millions. Vous vous rendez compte, la première chaîne la plus regardée, BFM Business, TV, pardon. Eh bien, nous parlerons. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce débat? Est-ce que c'est un débat sans surprise? Qui a été le grand vainqueur de ce débat hier? Le débat, le duel Jean-Luc Mélenchon face à Éric Zemmour. Personnellement, je l'ai trouvé très professoral. Mais on en parlera avec vous au 01 53 48 3000. Et puis tout à l'heure, en deuxième partie de l'émission, le face-à-face, c'est Emmanuel Dupuis face justement à une autre personnalité, Nadia Cherif, qui viendront d'ailleurs confronter leur point de vue sur les deux sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui, le débat Zemmour-Mélenchon, mais également l'islam qui préoccupe à tel point, l'islam qui est dans les esprits. Faut-il s'inquiéter de la pratique des musulmans de France? On se posait la question déjà il y a 40 ans. Les amis, est-ce que nous avons avancé sur cette question? Eh bien, on en parlera, j'ouvrirai l'antenne 01 53 48 3000. C'est parti.
Beurre FM, 19h, 20h, les informés avec Adil Farkan.
L'invité actuel aujourd'hui, l'interview.
Les informés, l'interview.
Une personnalité que vous connaissez, je ne la présente même plus, c'est le fondateur du site d'information qui marche super bien, il s'appelle donc Mediapart. Eh bien, je veux parler de Edoui Plenel. Je sais, j'ai reçu énormément de messages concernant Edoui Plenel. Quand on l'a annoncé sur les réseaux sociaux, je ne savais pas que ça allait susciter autant d'enthousiasme. Bonjour Edoui Plenel.
Bonjour à toutes et tous.
Vous savez que vous êtes une véritable star chez nos auditeurs, vous.
Je suis quelqu'un comme vous tous. Simplement, je fais des choses qui rentrent en écho, mais pas tout seul, avec une équipe, Mediapart, voilà.
Et qu'est-ce que vous leur dites justement, celles et ceux qui vous écoutent partout en France, nos auditeurs qui vraiment, je vous le dis, vous apprécient. Non, j'ai reçu énormément de messages quand on vous a annoncé. Non, mais c'est vrai.
Je leur dis d'abord merci, parce que ça fait plaisir, ça donne envie de continuer. Et puis, je leur dis qu'on ne doit rien lâcher, que c'est pas parce qu'il y a des horreurs, des abominations dans le débat public aujourd'hui, qu'on doit se laisser impressionner. C'est notre pays, c'est notre oui. République, et on la laissera pas la défigurer. Au contraire, on va tenir.
Eh bien, parlons-en justement. Edoui Plenel, journaliste, auteur d'ouvrages. Et vous avez écrit un ouvrage qui, évidemment, fait l'actualité en ce moment. Il s'appelle « À gauche de l'impossible » aux éditions La Découverte. Comment est née cette histoire « À gauche de l'impossible » Est-ce que finalement, vous vous êtes dit « On va rentrer en pleine campagne électorale présidentielle. C'est le moment. Il faut que je mette les pieds dans le plat. Et puis moi, Edoui Plenel, je veux participer à ce débat un peu comme le font tous les autres. » Est-ce que c'est ça?
Pas tout à fait comme le font tous les autres, c'est ça, mais c'est en fait, ce livre, il s'appuie sur 10 années de travail de Mediapart, de la présidence de Nicolas Sarkozy à celle d'aujourd'hui, pour au fond faire le constat de ce qui nous est arrivé. Parce que pour résister, pour inventer, il nous faut comprendre ce qui nous est arrivé. Comment on peut être dans cette catastrophe qui est quand même sidérante d'un pays où on en vient à débattre très sérieusement des prénoms étrangers, où on nous parle de l'islam le matin, le midi, le soir, où on commence à nous parler de cette idéologie criminelle comme si c'était un vrai débat d'idées qui est le grand remplacement, qui est en fait une façon d'habituer les gens à l'idée d'expulser toute la part de diversité de notre peuple. Et donc, j'ai fait tout ce livre pour, au fond, redonner de l'espoir à tout le monde. Et en disant que si on en est là, c'est parce que les partis politiques, notamment ceux qui se réclament de l'émancipation, ont, la gauche donc, ont oublié la société. Mais je ne me place pas que du point de vue de la gauche. La gauche n'est pas un certificat de baptême ou de naissance. Je me place du point de vue de toutes les bonnes volontés qui, au fond, sont du côté du camp de l'égalité, de naissance, de conditions, etc. Et donc voilà, c'est un livre pour comprendre et pour agir. Et pour chercher la porte étroite de l'espoir.
Eh bien,
afin d'échapper à la catastrophe.
Je l'ai lu, il se lit très très bien. Bravo d'abord parce qu'effectivement vous abordez toutes les questions et vous nous faites aussi pénétrer hein, dans ce monde, juste de monde politique de la gauche. Qu'est-ce que la gauche ? Vous parlez de la catastrophe, du péril. On va revenir justement, peut-être pas chapitre, mais il y a des choses qui ont retenu mon attention. D'abord, je voudrais vous poser cette question d'actualité, mon cher Edoui Plenel. Comment avez-vous trouvé hier le duel qui a fait un carton d'audience ? BFM s'est vu propulser la première chaîne nationale avec 3,8 millions. On s'y attendait, vous êtes surpris. Et puis, comment avez-vous trouvé ce duel Mélenchon-Zemmour face à face ? Qu'est-ce que vous retenez finalement de ce duel ? Est-ce qu'il y a un perdant, un gagnant ? Et est-ce que c'est un duel sans surprise, mon cher Edoui ?
Il y a un grand perdant, c'est le débat public. Chacun fait ce qu'il veut et je ne donne pas de leçons aux partis politiques, aux choix qu'ils font. Moi, ma position, vous le savez, c'est qu'on ne discute pas de recettes de cuisine avec un anthropophage. Mais le résultat des courses, c'est que, quelle que soit la qualité des arguments qui ont été opposés, devant 4 millions de personnes, on a considéré que quelqu'un pouvait dire des ignominies, car il faut le dire, Monsieur Zemmour, ce ne sont pas des idées qu'il professe. Ce sont des appels à défaire tout ce qui nous tient en commun. Sincèrement, on ne discute pas avec des idéologies racistes, ségrégationnistes, suprématistes,
oui,
qui sont aussi sexistes, parce que vous savez qu'il suffit de rappeler aux gens ce que M. Zemmour écrit sur les femmes pour que celles et ceux qui ont encore un préjugé vis-à-vis des musulmans, des arabes, des
femmes,
tout d'un coup tombent de leur chaise. Hein, c'est un homme qui pense que les femmes ont un plus petit cerveau que les hommes quand même. Donc voilà, une bonne fois pour toutes. Moi je dis que...
Comment l'avez-vous trouvé hier, Zemmour, Éric Zemmour ? Moi je l'ai trouvé personnellement professoral. Vous dites quoi, Edoui Plenel ?
Je vais vous faire un aveu.
Oui.
J'ai regardé tous les échos de ce débat, mais je ne me suis pas infligé ça. J'ai regardé le débat de grande qualité qu'il y avait sur Mediapart pour la primaire écologiste, où nous posions des questions de fond. Je me suis intéressé au débat qu'il y avait en Allemagne pour les élections législatives avec l'ensemble des partis. Vous savez quoi ?
Oui.
Seulement une fois, et par incidence, le mot « migrant » a été prononcé. Il n'y a jamais été question d'identité et de toutes ces folies, et on a parlé d'écologie, de questions sociales et de questions démocratiques et de questions européennes.
Oui.
Ce pays est en train de devenir fou, et son système médiatique et ses journalistes ont une immense responsabilité.
Oui.
Le succès d'audience et le succès, en l'occurrence...
Le succès d'audience. Jamais on a vu BFM se propulser, première chaîne nationale, avec 4 millions quasiment, un peu moins de 4 millions.
Mais j'entends, mais c'est l'écho donné, quelle que soit, encore une fois, la qualité des arguments que Jean-Luc Mélenchon lui a opposés, c'est l'écho donné, comme depuis des années, à une idéologie meurtrière. Encore une fois, il nous faut la combattre, et il faut d'abord, pour la combattre, eh bien, tourner la tête, mobiliser la société. Moi, je parle volontiers à celles et ceux qui se laissent piéger par cette idéologie, qui croient que M. Zemmour est quelque chose qui serait consistant. Encore une fois, M. Zemmour, il ouvre les vannes de ce qui peut totalement détruire cette société.
Edoui Plenel, ça sent pas bon, ça sent bon, cette histoire de campagne présidentielle. Comment, vous qui êtes un véritable spécialiste politique à la chose politique, comment vous appréhendez la chose ? Ça y est, on est en plein dedans, alors comment vous voyez les choses, Edoui Plenel ?
Moi, je ne prédis pas l'avenir, hein. Il y aura toujours des surprises possibles, et rappelez-vous les surprises de 2012, les surprises de 2017. Non, moi, c'est pour ça que j'ai fait ce livre. J'ai dit que, au fond, on ne peut pas réduire la politique en tant que bien commun à l'élection. Il y aura un lendemain des élections, et vous savez combien à chaque fois ce sont des déceptions. Regardez ce que disait M. Macron avant d'être élu et ce qu'il a fait depuis. Et regardez ce que disait M. Hollande avant d'être élu et ce qu'il a fait depuis.
Et donc, ils l'ont tous fait.
Moi, mon propos, c'est la société. Mon propos, et nous sommes nés de ça. Radio Beurre est né de ça. Mediapart est né de ça. Nous sommes du côté de la société. Et nous disons aux politiques professionnels que leur défaut, que leur tort, que leur erreur, c'est de ne pas avoir assez écouté la société, accompagné la société, appris de la société. Donc moi, je me place de ce point de vue et je mise toutes les chances, tous mes espoirs sur les mobilisations de la société, ce que j'appelle les causes communes de l'égalité, contre les injustices, contre les discriminations, contre les inégalités. C'est là qu'on se rassemble, c'est là qu'on peut faire quelque chose tous ensemble.
Alors, dans votre ouvrage, justement, parlons-en, dans le, il y a un chapitre qui a retenu mon attention, c'est page 33, l'appel du monde. Agis dans ton lieu, pense avec le monde. Conseiller Édouard Glissant, poète, philosophe, dans la poétique été. Et justement, un peu plus loin, vous dites, au tout début du quinquennat de Nicolas Sarkozy sur le retour français de ce poison politique, on parle d'identité nationale, cette clôture. Elle existe encore, cette gauche, aujourd'hui, Edoui Plenel? Est-ce qu'il y a encore une gauche qui incarne cette France?
Il y a nous, j'allais dire, il y a nous. Il y a, vous savez, le dernier chapitre du livre s'appelle « L'heure de nous-mêmes »
a sonné.
En écho à une formule qu'avait employée Aimé Césaire.
Oui, mais vous avez dit aussi l'espoir du lointain au prochain, un peu plus loin dans votre chapitre.
Voilà.
J'aime assez bien ce chapitre aussi.
Vous savez, les réponses à toutes les questions qu'on se pose, c'est pas une question de programme qu'on a comme problème aujourd'hui, c'est une question de méthode. Vous savez, sur le défi climatique, les réponses sont dans toutes celles et tous ceux qui, il y a très tôt, se sont mobilisés contre le scepticisme climatique et se mobilisent encore. Sur les discriminations, les associations de quartier, j'étais récemment à un débat avec les Passons-nous, Taki Collectif et tous celles et ceux qui mobilisent les quartiers, il y a les réponses, y compris les réponses en termes de solidarité, de financement, de solutions. De la même manière, sur beaucoup de domaines, et on le voit bien même avec le surgissement d'autres mouvements sur les violences policières, sur les libertés, il y a les réponses. Donc pour moi, la réponse, elle est là.
Et la réponse, elle est là, mais quand vous dites « elle est là », c'est qui au juste? Est-ce que quand vous dites, par exemple, dans votre chapitre, la France, vous dites dans votre... Vous parlez de la France, où va la France? Vous dites « où va la France ?» Et vous dites dans le chapitre 6, « pour un vrai pouvoir législatif ». Et si c'était ça alors, mais c'est qui au juste?
Alors, vous avez raison, c'est la vraie question. C'est pourquoi je vous parlais de l'Allemagne tout à l'heure. La question, c'est que nous avons un problème français. Nous avons un débat public, un débat politique, une course présidentielle qui est totalement... piégé, corrompu, abaissé par le cancer du présidentialisme. C'est un archaïsme. Cette façon de concevoir dans un monde complexe, regardez les questions internationales actuelles, regardez l'humiliation de la France au niveau géopolitique avec cette histoire de sous-marin. On ne répond pas aux défis du monde dans un pays où la volonté de tous est remplacée par le pouvoir d'un seul. On ne gère pas une pandémie. Regardez ce qui s'est passé sur la pandémie dans un conseil de défense à l'Élysée où un homme se déclare épidémiologiste en chef et décide tout seul. Du coup, il ruine la confiance, il crée du scepticisme, y compris, on l'a vu, sur la vaccination. Moi, je parie sur un sursaut démocratique. Nous avons besoin de sortir de ce système, et ça, s'il vous plaît, ça ne passe pas par le fait que quelqu'un nous promette qu'il nous fera sortir de ce système. Ça passe par notre mobilisation pour l'exiger. Car vous savez, j'en ai vu beaucoup de ceux qui confaisaient ce constat et qui, une fois président, étaient happés par ce présidentialisme. C'est pour ça que je parle de crétinisme présidentiel. Ils deviennent bêtes tellement ils ont de pouvoir et ils en oublient la société qui les a légitimés. Donc vous avez raison, il nous faut revenir à une démocratie délibérative. On est intelligent à plusieurs. On peut avoir des majorités d'idées. Regardez, dans la dernière période, c'est pas une question seulement de gauche et de droite. Les gens de gauche ont été indifférents aux violences policières contre les quartiers, contre les jeunes, contre les gilets jaunes. Ils ne se sont pas mobilisés. En revanche, une personne qui venait de la droite, Jacques Toubon, défenseur des droits, a été formidable. Donc moi, j'appelle à des majorités d'idées qui soient liées à cet idéal de l'égalité, c'est-à-dire la République authentique, pas une République comme un ordre mort, comme une sorte d'obéissance, mais une République qui nous appartient, que nous inventons nous-mêmes.
On est en pleine campagne présidentielle, justement, peut-être que c'est le moment, l'occasion, justement, de s'emparer de ce que vous dites, de ce que vous êtes en train de nous exposer. Ma dernière question, Edoui Plenel. Dans votre ouvrage, vous parlez de tout, de l'affaire Benalla, du Covid, de la gauche. Tout le monde en prend pour son grade, hein, vraiment. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs aujourd'hui? Ce sera le mot de la fin, je vous le laisse. Y compris cette démocratie qui meurt dans l'obscurité. J'ai beaucoup aimé ce passage, justement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce que vous avez envie de porter comme message à celles et ceux qui vous écoutent partout en France?
J'ai envie de leur dire d'abord de
parce soutenir. Que vous dites quand même, la catastrophe est en marche. Hein. Ça, oui, ça m'a inquiété, oui. Ça, monsieur Edoui Penellel.
Bien sûr, mais je pense qu'il faut pas se bercer d'illusions. Il faut regarder la réalité. Et en la regardant, on pourra justement mieux la combattre et mieux trouver des solutions. J'ai envie de leur dire deux choses. L'une, parce que c'est mon métier, qu'il faut soutenir des médias indépendants. Il faut... Vous savez, on vit et notre rôle et notre responsabilité est du côté de ce droit de savoir. On est dans une époque où il y a beaucoup de rumeurs, où il y a beaucoup de mensonges, où il y a beaucoup d'intoxication. Vous savez que le phénomène Zemmour s'accompagne d'un n'importe quoi, hein, d'opinions qui sont criminelles, qui n'ont pas de fondement, de préjugés, de choses ridicules et lamentables et honteuses. Donc il faut être du côté du camp de la raison, c'est-à-dire de ceux qui informent sérieusement, rigoureusement, précisément. Et puis enfin, j'ai envie de leur dire, nous on est un média participatif, qu'il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance dans vos propres forces. C'est ça la formule, l'heure de nous-mêmes a sonné. Moi, vous savez, je circule beaucoup, je vis comme tout le monde, et ce que je vois, contrairement à ce que j'entends dans ces médias d'opinion et dans le discours politique dominant, où on se méfie de la société, je vois une société formidable, une société qui a des solidarités formidables.
Oui, ça c'est vrai, oui, c'est une réalité.
On l'a vu dans notamment en Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France, face au Covid. On le voit dans les épreuves, on le voit dans le moment où une société est à l'épreuve. Et les gens qui diffusent les idéologies effroyables qu'on entend aujourd'hui, ce sont des gens qui ont peur. Nous n'avons pas peur. Ils ont peur. Ils ont peur de quoi ? Eh bien, ils ont peur pour, au fond, leur domination. Ils veulent rester du côté du manche. Eh bien, nous, on ne cherche pas à être du côté du manche. On cherche à être du côté de l'égalité, tous ensemble, au même niveau, en allant dans le même sens, c'est-à-dire chercher cet horizon. Vous savez, on n'atteint jamais l'horizon, mais en même temps, en le cherchant, on s'élève, on se redresse, on prend un peu de dignité.
Edoui Penellel, j'ai juste envie de dire à nos auditeurs, merci en tout cas pour ce message, mais surtout, pour mieux comprendre évidemment cette pensée, et comprendre votre pensée, allez vite vous procurer À gauche de l'impossible, c'est le dernier ouvrage, votre dernier ouvrage, Edoui Penellel, aux éditions La Découverte. Merci infiniment d'avoir été avec nous dans Les Informés.
Merci à vous, merci à Radio Beurre, merci.
Et à très bientôt sur notre antenne. 19h17, on va marquer la première pause pub. Et on se retrouve justement avec Emmanuel Dupuis, Nadia Chérif, pour le face-à-face. Et puis vous-même, vous pouvez commencer à nous appeler tout de suite au 01 53 48 3000 sur le débat. Comment vous les avez trouvés, Zemmour ? Comment Zemmour et Mélenchon ? Qui a été vainqueur pour vous ? Qui a été perdant ? Je vous attends, à tout de suite.
Les Informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
Les Informés, c'est aussi vous au 01 53 48 3000, jingle.
FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
Jingle les auditeurs, c'est ce que j'attendais, mais s'il est là, tant mieux, s'il n'est pas là, tant pis, mon cher Yanis.
01 53 48 3000. Les Informés vous donnent la parole.
Standard est ouvert au 01 53 48 3000. Comment vous avez-vous trouvé hier le débat ? Qui est le grand perdant ? Qui est le grand vainqueur ? Zemmour ? Jean-Luc Mélenchon ? Éric Zemmour ? Eh bien, j'attends évidemment votre avis. Tiens, je vais présenter le face-à-face Emmanuel Dupuis, que je ne présente même plus, le président fondateur de l'IPSE. Bonjour.
Bonjour Adil, bonjour les auditeurs. Ça va excellemment.
Excellent.
Beaucoup à dire.
Et enfin, une toute nouvelle parmi nous. Et elle est la bienvenue. Elle s'appelle Nadia Chérif. Ça va ?
Ça va. Et merci.
Petite présentation alors ? Comment je dois présenter ? Vous avez plusieurs casquettes ?
Plusieurs casquettes, effectivement. Consultante dans le domaine financier, ainsi que cofondatrice d'un collectif We Care for Them pour la fracture numérique durant le Covid. J'en parlerai un autre jour. Et. Accessoirement prof de yoga.
Ah, c'est bien, on a tous besoin de yoga.
Ouais. Voilà. L'apaisement après ce débat d'hier.
Tout à fait.
Je viendrai à ta séance.
D'ailleurs, ils auraient dû faire appel à Nadia, les deux.
Ah, c'est ça, exactement, les dieux hier.
Avant, venez me voir. La respiration et ensuite la détente.
La respiration, c'est important.
Hein. C'est très important.
Tu sais, je vous vois, mais moi, je fais des exercices de respiration parce que je suis tellement en speed, j'ai besoin de.
Mais c'est vrai.
Oh, de poser les choses. C'est allez, 01 53 48 3000, on a les auditeurs. Je vais commencer par qui ? Tiens. Il s'appelle Amadou de Grenoble. Bonjour Amadou, notre fidèle auditeur. Bonjour Amadou.
Comment allez-vous ? Ça va ?
Mais très bien, très bien.
Oh, ça nous a beaucoup manqué le débat.
Moi aussi, pareil.
Éric Zemmour, Effectivement, c'est nouveau Le Pen qui s'incarnait à Le Pen avec l'historicité
ça,
de la France.
Ça, c'est vrai, c'est vrai.
Et l'identité, tout simplement. Il est dans le passé.
Il est dans le passé. J'aime ça. C'est exactement ça.
Ouais, ben, c'est l'autre qui a. Comment encore là,
Jean-Luc Mélenchon.
Jean-Luc Mélenchon, ben, lui aussi, il a été dans le gouvernement passé. Hein, dans le gouvernement, je sais pas, dans le passé, il a été un peu dedans, quoi. Mais politiquement, je pense qu'il dit des choses. Effectivement, les Européens ne parlent pas de notre diversité. Nous sommes des Européens, nous sommes des Français. Mais quand tu regardes les débats européens, ils ne parlent pas de la diversité, ni les Noirs, ni les Arabes.
Ouais.
Donc, il y a un problème là-bas.
Oui.
Merci, merci Amadou. Tiens, Nadia Chérif.
Moi, je vais commencer parce
0,53, 48, 3000, je vous attends.
Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je pense qu'il est dans une niche, monsieur Zemmour.
Oui.
Parce que depuis.
C'est quoi cette niche?
Cette niche, c'est justement cette mise en avant de l'islam et des musulmans. Hier, je me suis retrouvée à regarder, et au départ, je me suis dit non, je ne regarderai pas, c'est pas intéressant. Et finalement, il faut quand même s'instruire. Et j'ai trouvé, pour une fois, Monsieur Mélenchon, très calme, posé. D'habitude, on parle de quelqu'un qui est très dispersé, et qui est, voire même mal poli avec les personnes qui l'interrogent. Et hier, ça a été Monsieur Zemmour que j'ai trouvé agité, insultant, irrespectueux, et il y avait justement ce spectre de l'islam qui rôdait autour de l'émission. Et quand à un moment donné, et je vous en parle parce que ça m'a frappé, il parlait du remplacement et que la France serait dépeuplée. Et là, je me suis dit, on est face à un phénomène de cannibalisme parce que les musulmans sont français. Il y a des musulmans athées, il y a des musulmans de confession juive, catholique, etc., etc.
Oui.
Alors, si un musulman français va être remplacé, par qui?
Par qui? Mais ce que vous dites, on va continuer d'en parler justement. Et ce débat qui a fait un carton d'ailleurs, je le rappelle, d'audience, qui a propulsé la chaîne de BFM TV, vous savez, la première chaîne la plus regardée de France hier, avec 3 millions, plus de 3 millions 8, c'est énorme. On était quasiment à 3 millions 9. Débat Zemmour, immigration, islam, des échanges tendus, les temps forts, vous savez quoi, on va revenir sur ces temps forts, sans grande surprise, le débat évidemment entre le candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, et le polémiste Éric Zemmour, a été quand même le théâtre, c'est le bon qu'on puisse dire, comme l'a rappelé Nadia Chérif, le théâtre d'échanges tendu. Direction Argenteuil, où je reçois Mustapha. Bonjour Mustapha. Mustapha. Bon ben Mustapha, si vous nous entendez, vous n'hésitez pas. 0153 48 3000. Emmanuel Dupuis, mettons les pieds dans le plat.
Allons-y, mettons les pieds dans le plat. Bon, le débat était néanmoins intéressant, car contrairement à beaucoup de débats, on a un petit peu focalisé sur la philosophie politique, sur le fond, et donc il y avait des références historiques, littéraires, tout ça était très bien, on avait l'impression d'être dans un grand oral de Sciences Po, chacun était dans son rôle. Ce sont deux candidats qui sont pétris d'histoire et qui sont empreints d'une forme d'humanisme que l'on ne trouve plus dans la classe politique française. Donc de ce point de vue, en tant qu'universitaire, moi j'ai apprécié les références, j'ai pas apprécié les tons, ni de l'un ni de l'autre. J'ai pas apprécié la rhétorique, mais je peux comprendre que le débat était élevé parce qu'on avait deux candidats qui connaissent l'histoire de France avec des différences.
Les deux, hein, d'ailleurs, les deux.
Avec les différences d'appréciation.
Moi, j'ai trouvé un peu professoral quand même, hein, Zemmour. Hein.
Mais très sincèrement,
j'ai pas trouvé candidat, moi.
Très sincèrement, c'était pas un débat présidentiel.
Oui, c'est vrai.
C'était un débat pour montrer que sur deux créneaux différents, ils sont les maîtres à bord.
Ouais.
Le créneau de l'identité nationale. Le créneau d'une identité internationaliste, ce qui a toujours été finalement la dimension que revendique Jean-Luc Mélenchon.
La crainte de l'envahisseur.
Le socialisme, le progressisme. D'ailleurs, ils l'ont dit. Macron, ma langue a fourché. Éric Zemmour parle à la France, et Mélenchon a dit, ça résume très bien, moi je parle au monde. Un discours internationaliste et un discours nationaliste. Chacun était dans son rôle. Le but n'était pas que l'un convainque l'autre, c'est qu'on chacun puisse identifier la réalité du propos et en gros ce qu'il pense vraiment. Donc de ce point de vue-là, le débat était réussi. Néanmoins, ce n'était pas un débat d'élection présidentielle.
Ouais, ouais, ouais.
Parce que, accessoirement.
On s'est quand même beaucoup attardé sur le sujet de l'islam, la religion, l'islam, les musulmans, les Français musulmans, les Français de confession musulmane.
Je reviens.
À croire, vous savez quoi, je vais vous rappeler quand même quelques chiffres. Hein. Déjà en 2013, déjà, il y a déjà quand même quelques années, on disait faut-il s'inquiéter de la pratique des musulmans de France? Souvenez-vous, 38% des musulmans font la prière. Alors attention à eux, ils vont finir par vous vous terroriser.
Non, mais,
je pense quand même, à un moment, il y a quand même. Et puis souvenez-vous aussi de cette. Je vous donne la parole. En 2013, toujours, c'est important de faire référence évidemment à l'histoire. 74% des Français jugent l'islam intolérant. Souvenez-vous déjà cette étude. Les musulmans doivent entendre cet avertissement. Quel avertissement, les amis? Parlons-en. 0153483000 aussi, les auditeurs, je voudrais les entendre.
Non, mais Nadia Chérif. On dit ce qu'on veut avec les chiffres et on en fait ce qu'on veut. Je ne suis pas en train de dire que c'est faussé à 100%, mais tout de même. Hier, j'avais l'impression que M. Zemmour était en train d'agiter le doudou et il avait besoin du doudou pour se rassurer et rassurer la population qu'il courtise. Ouais. Et heureusement, ce n'est pas toute la France. Heureusement. Hier, on était, historiquement parlant, si on parle d'histoire...
2013, 75% des Français jugent l'islam intolérant. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Quelques années plus tard, Zemmour revient sur ça, Nadia Chérif.
Oui, mais on parle d'histoire électorale. À chaque élection, on a ce type de débat. Maintenant, c'est récurrent. Rien de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil. Et c'est ça qui est dommage. Alors Emmanuel,
j'abonde dans ce sens. On a beaucoup parlé d'islam pour une autre raison. C'est que les journalistes ont focalisé sur la question. Et ils l'ont utilisé pour voir s'il y avait un clivage entre les deux. Et forcément, il y avait un clivage. Donc c'est aussi une forme de BFMisation du débat public. Parce qu'effectivement, Edoui Plenel, je suis jamais d'accord avec Edoui Plenel, mais il a raison. Les thèmes qui ont été choisis, exceptionnellement, après, la face se refermera, la parenthèse sera refermée. Et Edoui Plenel a raison sur ce point. Quand on compare le débat, que moi je n'ai pas vu, des futures élections législatives allemandes, là on parle au monde. L'Allemagne parle au monde, parce qu'elle a un projet.
C'est pas faux.
Là, on était dans un débat d'identité de chacun, ou d'une identité nationale, surjouée. Mais ils étaient chacun dans leur rôle de surjouer l'opposition ou de surjouer l'identité. Comme le dit Nadia, chacun visait son électorat. Il ne cherchait pas à convaincre quiconque.
C'est vrai.
Il cherchait à convaincre son électorat qu'ils étaient le meilleur défenseur d'une certaine forme de vision anachronique, sclérosée de la France. On est tous d'accord là-dessus, mais chacun s'est réaffirmé dans son couloir.
Avec quelques minutes de retard, le Quoi de Neuf tout de suite.
Les informés, le Quoi de Neuf. Le Quoi de Neuf.
Suite après le face-à-face Nadia Chérif face à Emmanuel Dupuis concernant les deux sujets qui ont marqué donc cette journée, je veux accueillir Michel Taub, bonjour.
Bonjour Michel Taub. Bonjour aux auditeurs de BFM.
Merci à vous, comme chaque vendredi, c'est votre billet d'humeur, votre édito, il concerne le duel face-à-face justement, d'Éric Zemmour face à Jean-Luc Mélenchon. On vous écoute mon cher Michel, vous qui êtes patron d'opinion internationale.
Merci de me donner l'occasion de revenir sur ce débat qui a quand même quelque part, je trouve, lancé la campagne électorale. Alors on y était déjà, mais franchement là on sent qu'on passe quand même à la vitesse supérieure. Et moi je voudrais donner un carton rouge un peu à tous les deux rhéteurs que sont Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon.
Carton rouge distribué.
Carton, il y en a deux. Alors d'abord pour Éric Zemmour qui évidemment voudrait que la question de l'élection présidentielle soit celle de l'identité française.
Oui.
Alors effectivement, je pense que c'est une belle question, c'est certainement une vraie question. La France est un beau pays, c'est un grand pays qui a été choisi par des millions ou des centaines de millions de gens dans l'histoire et c'est pas pour rien. Mais je pense que son erreur majeure, c'est que à dénoncer l'islam, il dénonce aussi à tort tous les musulmans de France. Et je pense que son erreur stratégique, c'est d'oublier qu'il y a en France de nombreux citoyens français musulmans qui sont pour la laïcité, qui sont pour l'égalité homme-femme, qui considèrent que le voile n'est pas une prescription de l'islam, comme le dit souvent M. Moussaoui, le président du CFCM. Et donc, je pense que, j'ai envie de dire, il y a un mal pour un bien, ou il y a un bien pour un mal, c'est que dans les semaines et dans les mois qui viennent, plus Zemmour va monter en puissance, il monte en puissance, et plus je pense que ces Français qui aujourd'hui se sentent offusqués par Zemmour vont s'exprimer et prendre la parole pour dire nous sommes la France,
bah oui, il faut l'entendre.
Laïque, cette France de la liberté, cette France de l'égalité et cette France de la fraternité. Et donc je pense qu'évidemment, il a tort de vouloir stigmatiser tous nos concitoyens. Alors il dit, il commence à dire hein, depuis quelques semaines qu'il s'en prend plus à la religion qu'aux musulmans eux-mêmes de France, mais quand même il confond le tout et il stigmatise trop. Évidemment, c'est pas comme ça qu'on va réussir à bâtir la France de demain. Et puis mon carton rouge aussi pour Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon voudrait faire non pas de l'identité française, mais de la question sociale, la question de l'élection présidentielle. Mais les solutions qu'il prône ne vont pas. Il est pour une sorte de tout État, il est pour une sorte de d'importation en France d'un système qui mélangerait Cuba et Venezuela. C'est pas comme en rajoutant de l'État à l'État qu'on va régler la question sociale. Pour relancer l'ascenseur social, pour redonner un espoir à nos concitoyens qui sont dans la difficulté, il faut libérer les énergies, il faut libérer les entreprises, il faut libérer les créateurs de restaurants, de brasseries, de taxis, etc. Et en France, on est dans un pays où on a trop de contraintes et trop de réglementations. Donc tous les deux candidats posent des vraies questions, mais apportent de très mauvaises solutions aux problèmes de notre pays. Et je pense que les solutions, elles sont ailleurs et pas dans celles de ces deux candidats. Alors, lesquels? Est-ce que ce serait Emmanuel Macron? Est-ce que ce serait un Xavier Bertrand? Est-ce que ce serait une Anne Hidalgo? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, ce qui s'est passé hier, c'est un avant-goût de ce qu'on va connaître dans les mois qui viennent.
C'est vrai.
Mais
c'est un avant-goût.
Ce ne sont pas les solutions qu'il faut pour notre pays. Voilà ce que je voulais dire, cher
Adil. Eh bien, écoutez, merci pour ce billet d'humeur, votre édito, évidemment. Comme chaque vendredi, on vous retrouve semaine prochaine, sans faute.
Sans faute, absolument.
Merci, et je le rappelle, donc vous êtes le patron, fondateur de Opinion Internationale. Allez consulter, c'est tout en ligne. Merci, mon cher Michel, et un très bon week-end.
Un très bon week-end à vous.
19h36, on marque la dernière pause pub et on se retrouve pour la dernière ligne droite avec Nadia Cherif, Emmanuel Dupuis, le face-à-face. On continue de parler de ce duel et on parlera aussi, vous savez, de ce second sujet, l'islam. La préoccupation est-elle une véritable préoccupation au point où Washington se dit inquiète pour la liberté de religion en France? Vous vous rendez compte? À tout de suite.
Les informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Le face-à-face, jingle, c'est parti.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face avec Nadia Cherif et face à Nadia, c'est Emmanuel Dupuis, justement. Si vous me permettez, on va juste accueillir direction, quelle ville d'ailleurs? Quelle ville? Toulon, Hamdi. Bonjour Hamdi.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Merci de me prendre à l'antenne.
Mais bien sûr, c'est normal. Vous êtes là pour ça, 0153 48 3000.
C'est gentil, merci beaucoup. Je vous appelle parce que moi, je vis dans une région, c'est le Var, donc il y a beaucoup de gens de la communauté espagnole, italienne, enfin, il y a beaucoup de mélanges, on s'entend très bien. Malgré qu'il y en a encore qui, des amis à moi dans mon cercle très proche qui pour eux, la guerre d'Algérie, tout ça, c'est comme si c'était hier. Je voulais appeler juste pour ce qui se passe en ce moment, parce que bon, il y a des choses plus graves dans la vie que M. Zemmour, là, ses propos. Je voulais dire juste un truc. Moi, je suis français, d'origine maghrébine. Mes parents sont maghrébins, moi, je suis né en France. Moi, je veux bien prendre ma valise et rentrer au pays. Si Madame Hidalgo, la maire de Paris, retourne en Espagne, si Monsieur Bardella, qui est d'origine italienne, retourne en Italie, Madame Marine Le Pen, qui est égyptienne copte, retourne en Égypte, si ces gens-là qui dirigent la France, qui se disent français et qui parlent toujours de l'islam et de patati patata, moi, s'il y a quelqu'un qui s'appelle Dupont et Durand qui me dit « tu quittes mon pays », je veux bien l'écouter parce que c'est chez lui, ici. Hein, c'est une terre d'accueil de la France, donc au départ, c'était eux. Mais c'est en ce moment, depuis des années, les gens qui stigmatisent les Maghrébins, tout ça, ils ne sont pas français, c'est-à-dire que c'est des fils d'émigrés qui sont arrivés avant nous. Et que, voilà, c'est des... Ce que je reproche à ma communauté, c'est que il n'y a pas beaucoup de gens qui se rappellent... que ces gens-là qui sont au gouvernement la plupart ou qui sont dans les banques ou dirigeants, c'est des fils d'émigrés. Et sachez que ces gens-là, pour leur faire fermer leur bouche, hein, pour être poli, parce que c'est pas des sauvages, des indigènes, c'est qu'il faudrait leur rappeler que quand on parle au nom de la France, ils sont comme nous sur le même piédestal, c'est-à-dire sur la même échelle, parce que c'est des enfants d'émigrés. Je vois pas pourquoi ces gens-là ils se permettent de critiquer les autres étrangers, pas spécialement les Arabes, les hommes de couleur. et que personne de notre communauté, qui représente, il y en a quelques-uns qui sont au gouvernement ou qui ont pignon sur rue, qui leur disent, attendez, vous vous appelez Bardella, vous appelez Hidalgo, Zemmour, vous parlez, vous critiquez notre communauté, l'islam et compagnie, vous n'êtes même pas...
C'est ça, c'est là où le bas blesse, justement.
Voilà.
Ben, merci, Hamdi, d'être intervenu.
Une petite dernière question, il faudrait peut-être dire aux gens qui écoutent, je les remercie d'écouter Beurre FM, et puis voilà, enfin bref, dire à M. Zemmour, on est en France, le drapeau qui flotte, c'est bleu, blanc, rouge, on n'est pas en Israël, parce qu'il y a une confession judaïque, moi j'ai des amis, mon meilleur ami, il est hébreu, donc je n'ai rien...
Mais je crois qu'il ne le revendique même pas, lui, hein.
Non, mais
il le revendique pas du tout, ça, hein. Lui, il revendique la France, lui. Sa revendication tourne autour de la France, Zemmour.
Il dit qu'il a une culture chrétienne.
Oui, il dit même, d'ailleurs, il a une culture chrétienne. Jamais vous l'avez entendu parler de ça. Hein.
Oui, mais vous savez, moi, je suis musulman de culture chrétienne aussi. C'est pareil, une culture européenne. Mais M. Zemmour, il croit qu'on est en Palestine ou en Israël. Et je pense que ce gars-là, il est plutôt...
C'est votre grille de lecture. Bon. Voilà, merci, Hamdi. Merci d'être intervenu sur l'antenne. 01-53-48-3000. Nadia Chérif, Emmanuel Dupuis. Et d'ailleurs, vous savez quoi? On a une toute nouvelle audience. C'est les Montpelliérains. À Montpellier, vous savez quoi? On vient de décrocher une audience.
Ah, super. Bravo. Félicitations.
On a un gros bassin d'auditeurs.
Pour les Montpelliérains.
Absolument, les Montpelliérains.
Je fais une digression. J'espère que vous couvrirez le sommet Afrique-France.
Oui.
Qui est à Montpellier le 7 et le 8 octobre. Il faut faire une émission spéciale.
Et je demande vraiment solennellement s'il y a un auditeur ou une auditrice de Montpellier qui nous appelle tout de suite. Ça me ferait vachement plaisir parce que ça serait notre premier auditeur pour les informer sur Beurre FM. Nadia Chérif, pour clore avant de passer au second sujet, donc finalement, que retenir de ce débat, de ce duel?
Alors, moi, je retiens quelque chose, et notamment ce qu'a dit Emmanuel Dupuis au tout début. C'est-à-dire que c'était... une leçon d'histoire. Mais moi, j'en reviens à l'électorat. Est-ce que ces leçons d'histoire de part et d'autre ont aidé l'électorat de M. Zemmour, qui veut un électorat élevé, alors que on a tendance à penser qu'il y a eu un manque un abstentionnisme dû au fait que les gens, et notamment les personnes qui n'ont pas qui n'ont pas de bac plus 5 ou de doctorat, n'ont pas voulu voter parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe et parce que ça ne les touche pas. Et hier, c'est ce qui s'est passé. Leçon d'histoire, etc., etc. Mais qu'est-ce qui va changer dans leur vie? Et moi, aujourd'hui, j'ai discuté avec des personnes qui m'ont dit le débat sympathique, très bien. L'un et l'autre ont montré leur connaissance et leur savoir. Ils l'ont étendu, ils l'ont étalé, tant mieux. Mais qu'est-ce que ça m'apporte?
Exactement. C'est vraiment la principale question. Emmanuel Dupuis.
Je vais rajouter un autre élément. C'est que pour être président de la République, il faut savoir fédérer, il faut savoir tempérer, il faut savoir s'adresser à des gens qui pensent radicalement différemment de vous. À aucun moment, Zemmour n'a dit ça. Zemmour a dit je campe sur mes positions, voilà ce que je pense, et je pense très sincèrement que bien sûr la campagne présidentielle est lancée, mais que pour qu'il soit candidat et pour qu'il aille au-delà de son score, parce que c'est logique, qui représente entre 8 et 10%, puisqu'il est en train de siphonner un électorat qui, de toute façon, hésitait entre l'aile droite des Républicains et le Rassemblement National. C'est que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut sortir de sa zone de confort. Et là, quand même, un plus, ou du moins une appréciation positive. C'est vrai qu'il y a eu une tentative pour parler environnement et pour parler économie, dans lequel, mais très petite, bien sûr. Mais encore une fois, et ce sera d'un mot ma conclusion, ce débat n'était pas un débat pour la présidentielle, c'était un débat pour montrer que Beurre FM était... Que BFM fera l'élection présidentielle. D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé qu'au cours de cette journée, ils n'ont eu de cesse de rappeler les 4 millions de téléspectateurs que c'est la première chaîne d'info de France, etc., etc., etc. Là où on reprochait à CNews d'avoir créé Zemmour, non, c'est pas CNews, c'est BFM qui va le propulser au-delà de ce qu'il représente.
Et ils vont le récupérer peut-être après ?
C'est tout à fait possible.
C'est possible, hein, je vous le dis. Hein. Franchement, c'est possible. Ce second sujet qui a retenu notre attention, vous savez quoi ? C'est l'islam. L'islam, évidemment, doit-on s'inquiéter pour cette liberté de religion en France ? Faut-il s'inquiéter tout simplement de l'islam, des musulmans de France, paraît-il ? Oui, non ? Alors, Nadia Chérif, est-ce que la question doit se poser comme ça ?
Non, alors je réponds très simplement non, parce qu'on n'est pas réduit à l'islam. Nadia Cherif, Mohamed d'ailleurs, un prénom qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il existe. Donc on n'est pas, la définition d'une personne, ce n'est pas que sa religion. Évidemment, ouais, heureusement que ça en fait partie. Mais et comme beaucoup de personnes le disent, on en a assez, la coupe est pleine. Il y a autre chose dans l'identité d'une personne. On est français et fier.
Faut faire quoi, Nadia Cherif? Faut réagir? Faut que les musulmans de France, les Français de confession musulmane,
déjà, moi, je
français,
me bats.
Réagissent? Est-ce qu'il faut qu'ils se manifestent? Est-ce qu'il
tout à fait.
Ou bien au contraire, ignorer, passer?
Non, comme d'habitude.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Comme d'habitude.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Comme d'habitude, il faut se manifester. Il faut se manifester, être présent, aller voter. Et aujourd'hui, l'enjeu, s'il vous plaît, et ça c'est une prière pieuse, alors Krishna, Allah, qui on veut, mais, et c'est le débat, c'est vraiment aller voter. Et elle est là, il est là l'outil.
L'arme.
Et l'arme.
L'arme fatale.
Tout à fait, aller voter, c'est ça qui fait qu'on est citoyen d'un pays.
Oui. Emmanuel Dupé.
Je partage le point de vue, bien sûr. L'identité ne se résume pas à la religion qu'on pratique ou qu'on ne pratique pas d'ailleurs. Vous faisiez mention, Adil, d'un sondage américain, ou du moins de préoccupation américaine sur la liberté de religion.
Oui.
Mais il y a quand même une différence notable. C'est qu'aux États-Unis, l'identité religieuse, l'appartenance à une communauté se fait à travers la religion.
C'est vrai.
D'ailleurs, c'est marqué sur leur carte d'identité. En France, il n'y a absolument pas cela. Un citoyen français est un citoyen français, tout court, quelle que soit son origine ethnique, religieuse, et singulièrement social aussi.
Oui, mais nous n'avons pas le droit de faire de statistiques en France.
Oui, non, mais c'est lié à ça.
Voilà.
C'est lié à ça pour ne pas faire de différentialisme. Moi, je crois que ce débat sur l'identité est un débat qui doit être posé autrement qu'à travers le seul prisme d'une religion.
C'est-à-dire ?
Je réponds.
Ben oui, on a besoin de savoir.
Au-delà ou différemment du seul prisme d'une religion, premièrement. Parce qu'il y a des Français qui appartiennent ou qui s'identifient à des origines extra-nationales aussi à travers la géographie.
Oui, mais Emmanuel,
l'origine d'où ils viennent.
Oui, mais Emmanuel, est-ce que c'est prénom, est-ce que c'est religion? Parce qu'aujourd'hui, je suis désolée de le dire, on en est arrivé à religion islam et prénom à consonance musulmane.
Elle a raison.
Donc c'est pour ça que je te pose la question.
Elle a raison.
Vous êtes pris au piège.
Piège pourquoi?
Parce que on voudrait. Si vous me permettez
on va te laisser parler, Emmanuel.
On voudrait focaliser le débat sur la notion d'appartenance à une religion parce que l'on vient d'une aire géographique.
Mais non, on parle d'assimilation.
Laissez-moi terminer. Si vous allez comprendre, c'est très facile à comprendre.
On va comprendre.
La plupart des gens qui pratiquent l'islam, qui sont musulmans, ne s'identifient pas comme musulmans. Ils s'identifient comme Algériens, ils s'identifient comme Tunisiens, ils s'identifient comme Marocains.
C'est vrai.
L'histoire prime
c'est vrai.
Sur l'identité religieuse.
Vous avez raison, c'est vrai, c'est vrai.
Sur les 6 millions, il n'y a pas de statistiques éthiques, mais on sait plus ou moins qu'il y a 10% de la population française, donc plus ou moins 6 millions de musulmans. Sur les 6 millions de musulmans, seulement un sixième d'entre eux sont des pratiquants, et sur ces 1 million de pratiquants, la moitié sont pratiquants rigoristes. Entre guillemets, est-ce qu'on peut réduire 500 000 personnes aux 5,5 millions qui se retrouvent finalement dans cette majorité silencieuse?
Vous dites quoi, Nadia Cherif? Nadia Cherif.
Oui, mais il a raison dans ce qu'il dit. Hein, ça, c'est. Mais nous qui le pratiquons et de l'intérieur, moi j'ai envie de dire, je vais plus loin. On a la chance d'être dans un pays où aussi on est de culture musulmane avec une apparence musulmane, un prénom musulman. On peut dire. Sans être en danger,
certains
a priori,
je
ne suis pas musulman,
oui.
Ou je ne pratique pas. C'est oui. Une chance quand même en
oui,
France. Et on peut être dans une famille où le frère pratique, la sœur ne pratique pas.
Au Ramadan,
ils sont invités, ils ne mangent, ils ne font pas le jeûne, etc. Et ça, on ne le dit pas assez. Moi, je sais que je rencontre.
Et ça, il y en a à l'appel.
Et il y en a à l'appel.
Il y en a à l'appel.
Il faut le dire. Or, aujourd'hui, on dit
islam
égal prénom égal.
Le jeûne, les enfants qui font pas le jeûne, qui pratiquent pas, mais voilà. c'est pas pour autant qu'ils se retrouvent à table pour rompre le jeûne, pour la rupture du jeûne. Et les parents se posent pas la question s'ils font le jeûne, font pas le jeûne.
Non, on le dit pour l'ensemble.
J'ose espérer qu'on est tous d'accord, mais c'est pas là le débat.
Non, le débat il est pas là.
Le débat il est pas du tout.
Il est pas du tout là. Le débat il est pas du tout là.
Je vais rajouter un point par rapport à cette étude.
Mais je voyais où elle voulait venir sur le propos.
Non, mais on est tous d'accord là-dessus. On le dit différemment. Mais là où il y a quand quand même un élément qu'il faudrait intégrer dans le débat. C'est qu'on focalise beaucoup sur la place de...
Pardon, mais vous savez, l'islam revient en permanence, c'est un sujet récurrent. C'est pour ça que je voulais qu'on le traite ce soir.
Je termine.
Depuis Chirac, depuis Mitterrand, l'islam, Adil, les musulmans.
Adil, je pense qu'on le surjoue. Je vais vous donner... je vais vous donner...
À chaque élection, on le surjoue.
Je vais vous donner une référence différente. Il y a un sondage qui s'appelle l'Arab Barometer, qui chaque année étudie les grandes dynamiques et les grandes tendances du monde arabo-musulman. Eh bien, figurez-vous que quand nous focalisons sur la religion, ou la place que devrait avoir la religion dans l'espace sociétal, donnant l'impression que l'islam politique doit être de plus en plus ou mieux pris en compte. C'est rigoureusement le contraire de l'autre côté de la Méditerranée. La désacralisation, la laïcité est en train de s'imposer. Je vous donne un chiffre. Juste après les révolutions arabes, on prend l'exemple les plus caractéristiques, c'est-à-dire celui de la Tunisie et celui de l'Égypte.
L'Égypte, oui.
La plupart, disons entre 10 et 20% de la population, estimait que la religion impactait sur leur vote. Depuis, 10 ans plus tard, phénomène de contre-révolution, c'est rigoureusement le contraire. Je prends l'exemple de la Tunisie pour comparer, entre les 19-24 ans, 42% estiment que la religion n'impacte plus sur leur choix. Donc attention à ce que nous soyons obnubilés par ce débat, alors que de l'autre côté de la Méditerranée, c'est un débat qui est déjà passé.
Mais parce qu'il y a la place pour ce débat. Aujourd'hui, on a d'autres choses à penser et d'autres problèmes à régler qui sont majeurs. Or, le spectre de l'islam et de cet ennemi qui vient envahir la France et le grand remplacement, on n'a jamais autant parlé du grand remplacement.
Comme si
il y avait une... Bientôt, il va falloir un vaccin. Il va falloir un vaccin anti-islam en France. Parce que à force de revenir sur le débat...
Tous les candidats n'en parlons pas non plus, attention.
Oui, mais tu as raison.
On se focalise sur les candidats qui en font le plus violemment. Mais tous les candidats n'en font pas leur tour.
Tout à fait, mais les chaînes et les médias en parlent énormément parce que c'est un thème qui revient. Et qui est récurrent.
C'est
vendeur, effectivement. Mais aujourd'hui, on a besoin d'autre chose. Et il serait temps que dans ce catalogue d'acteurs politiques, on ait des personnes qui puissent réagir avec des solutions concrètes. Sinon, ça va être bis repetitas. Et à nouveau, on ne va pas pouvoir avoir de personnes qui vont voter et abstentionnisme à nouveau.
C'est vrai. Emmanuel Dupuis, on va clore.
De nouveau, vous allez croire que je suis devenu Edoui Plano compatible. Il y a quand même un élément sur lequel il a raison.
La greffe a marché.
Oui, encore une fois, je pense qu'elle sera de courte durée. Mais là où il a raison, c'est que l'élection présidentielle est le seul moment où l'on doit penser le pays pour lequel on aspire la majorité suprême par rapport au reste du monde. La politique étrangère doit être le sujet dont on doit parler parce qu'on n'en parle jamais ailleurs. Pas, ou beaucoup moins, les questions sociétales. Ça, c'est plutôt du domaine des élections législatives où les électeurs sont confrontés au local,
madame,
ou se confronter à la manière dont ils doivent représenter leurs citoyens. Donc moi, je pense que Beurre FM a une responsabilité aussi de focaliser sur des sujets, même si ils sont polémiques, et donc médiatiquement polémiques, et donc de prendre en compte des sujets qui ne sont pas traités, mais qui sont essentiels, parce que si la France est attractive, c'est aussi par sa capacité universaliste et sa capacité de faire adhésion avec le monde.
Mais vous allez participer, vous dites Beurre FM. Beurre FM, bien sûr, joue son rôle, mais également vous, les influenceurs, les débatteurs. Merci à Emmanuel Dupuis, merci à Nadia Chérif. À très bientôt.
À très bientôt.
C'était un beau galop d'essai.
Absolument.
Merci
à la réalisation.
Bravo.
C'était Yannis. Merci aux auditeurs.
Il n'y a pas eu de Montpellier.
Oui, ils viendront. Non, ils viendront, j'ai pas de doute. 01-53-48-3000, ils viendront. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous surtout. On ne lâche rien. Et à lundi avec autant de plaisir. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.